Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre. Evelyne Jobin.
Bonjour, je vous propose aujourd'hui la suite et fin de mon adaptation du roman de Marguerite Duras, L'Amant. Je ne sais plus quels étaient les mots du télégramme de Saïgon, si on disait que mon petit frère était décédé ou si on disait « rappeler à Dieu ». Il me semble me souvenir que c'était « rappeler à Dieu ». L'évidence m'a traversée, ce n'était pas elle qui avait pu envoyer le télégramme. Le petit frère, mort. D'abord, c'est inintelligible. Et puis, brusquement, de partout, du fond du monde, la douleur arrive. Elle m'a recouverte, elle m'a emportée. Je ne reconnaissais rien. Je n'ai plus existé, sauf la douleur. Laquelle ? Je ne savais pas laquelle. Si c'était celle d'avoir perdu un enfant quelques mois plus tôt qui revenait, ou si c'était une nouvelle douleur. Maintenant, je crois que c'était une nouvelle douleur. Mon enfant mort à la naissance, je ne l'avais jamais connu et je n'avais pas voulu me tuer comme là je le voulais. On s'était trompé. L'erreur qu'on avait faite en quelques secondes a gagné tout l'univers. Le scandale était à l'échelle de Dieu. Mon petit frère était immortel et on ne l'avait pas vu. L'immortalité avait été recelé par le corps de ce frère tandis qu'il vivait, et nous, on n'avait pas vu que c'était dans ce corps-là que se trouvait être logé l'immortalité. Le corps de mon frère était mort, l'immortalité était morte avec lui. Et ainsi allait le monde maintenant, privé de ce corps visité et de cette visite. On s'était trompé complètement. L'erreur a gagné tout l'univers. Le scandale. Du moment qu'il était mort, lui, le petit frère, tout devait mourir à sa suite, et par lui. La mort en chaîne partait de lui, l'enfant. Le corps mort de l'enfant, lui, ne se ressentait en rien de ces événements dont il était cause. L'immortalité qu'il avait abritée pendant 27 ans de sa vie, il n'en connaissait pas le nom. Personne ne voyait clair que moi. Et du moment que j'accédais à cette connaissance-là, si simple, à savoir que le corps de mon petit frère était le mien aussi, je devais mourir. Et je suis morte. Mon petit frère m'a rassemblée à lui, il m'a tirée à lui, et je suis morte. Les paquebots remontaient la rivière de Saïgon, moteur arrêté, tiré par des remorqueurs, jusqu'aux installations portuaires qui se trouvaient dans celles des boucles du Mékong, qui est à la hauteur de Saïgon. Cette boucle, ce bras du Mékong, s'appelle la rivière de Saïgon. L'escale était de 8 jours. Du moment que les bateaux étaient à quai, la France était là. On pouvait aller dîner en France, y danser. C'était trop cher pour ma mère et de plus pour elle, ce n'était pas la peine. Mais avec lui, l'amant de Cholène, on aurait pu y aller. Il n'y allait pas, parce qu'il aurait eu peur d'être vu avec la petite Blanche si jeune. Il ne le disait pas, mais elle le savait. À cette époque-là, et ce n'est pas encore si loin, à peine 50 ans, il n'y avait que les bateaux pour aller partout dans le monde. De grandes fractions des continents étaient encore sans route, sans chemin de fer. Sur des centaines, des milliers de kilomètres carrés, il n'y avait encore que les chemins de la préhistoire. C'étaient les beaux paquebots des messageries maritimes, les mousquetaires de la ligne, le Porthos, le D'Artagnan, l'Aramis, qui reliaient l'Indochine à la France. Ce voyage-là durait 24 jours. Les paquebots des lignes étaient déjà des villes avec des rues, des bars, des cafés, des bibliothèques, des salons, des rencontres, des amants, des mariages, des morts. Des sociétés de hasard se formaient. Elles étaient obligées, on le savait, on ne l'oubliait pas, et de ce fait, elles devenaient vivables et même parfois inoubliables d'agrément. C'était là les seuls voyages des femmes. Pour beaucoup d'entre elles, surtout, mais pour certains hommes parfois, les voyages pour se rendre à la colonie restaient la véritable aventure de l'entreprise. Pour la mère, ils avaient toujours été, avec notre petite enfance, ce qu'elle appelait le meilleur de la vie. Les départs. C'était toujours les mêmes départs. C'était toujours les premiers départs sur les mers. La séparation d'avec la terre s'était toujours faite dans la douleur et le même désespoir, et ça n'avait jamais empêché les hommes de partir, les juifs, les hommes de la pensée et les purs voyageurs du seul voyage sur la mer, et ça n'avait jamais empêché non plus les femmes de les laisser aller, elles qui ne partaient jamais, qui restaient garder le lieu natal, la race, les biens, la raison d'être du retour. Pendant des siècles, les navires avaient fait que les voyages étaient plus lents, plus tragiques aussi, qu'ils ne le sont de nos jours. La durée du voyage couvrait la longueur de la distance de façon naturelle. On était habitué à ces lentes vitesses humaines sur la terre et sur la mer, à ces retards, à ces attentes du vent, des éclaircies, des naufrages, du soleil, de la mort. Les paquebots qu'avait connus la Petite Blanche étaient déjà parmi les derniers courriers du monde. C'était pendant sa jeunesse, en effet, que les premières lignes d'avions avaient été instituées, qui devaient progressivement priver l'humanité des voyages à travers les mers.
Thank you.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
On allait encore chaque jour dans la garçonnière de Cholène. Il faisait comme d'habitude. Pendant tout un temps, il faisait comme d'habitude. Il me douchait avec l'eau des jarres et il me portait sur le lit. Il venait près de moi, il s'allongeait aussi, mais il était devenu sans force aucune, sans puissance aucune. La date du départ, même encore lointaine, une fois fixée, il ne pouvait plus rien faire avec mon corps. C'était arrivé brutalement, à son insu. Son corps ne voulait plus de celle-ci qui allait partir, trahir. Il disait « Je ne peux plus te prendre, je croyais pouvoir encore, je ne peux plus ». Il disait qu'il était mort. Il avait un très doux sourire d'excuse. Il disait que peut-être ça ne reviendrait plus jamais. Je lui demandais s'il aurait voulu cela. Il riait presque, il disait « Je ne sais pas, en ce moment peut-être que oui ». Sa douceur était restée entière dans la douleur. Il ne parlait pas de cette douleur, il n'en avait jamais dit un mot. Parfois son visage tremblait, il fermait les yeux et ses dents se serraient. Mais il se taisait toujours sur les images qu'il voyait derrière ses yeux fermés. On aurait dit qu'il aimait cette douleur, qu'il l'aimait comme il m'avait aimé, très fort, jusqu'à mourir peut-être, et que maintenant il la préférait à moi. Des fois il disait qu'il voulait me caresser parce qu'il savait que j'en avais une grande envie, qu'il voulait me regarder lorsque la jouissance se produirait. Il le faisait, il me regardait en même temps et il m'appelait comme son enfant. On avait décidé de ne plus se voir, mais ce n'était pas possible. Ça n'avait pas été possible. Chaque soir, je le retrouvais devant le lycée dans son automobile noire, la tête détournée de la honte. Lorsque l'heure du départ approchait, le bateau lançait trois coups de sirène très longs, d'une force terrible. Il s'entendait dans toute la ville et du côté du port, le ciel devenait noir. Le remorqueur s'approchait alors du bateau et le tirait vers la travée centrale de la rivière. Lorsque c'était fait, les remorqueurs larguaient leurs amarres et revenaient vers le port. Alors le bateau, encore une fois, disait adieu. Il lançait de nouveau ces mugissements terribles et si mystérieusement tristes qui faisaient pleurer les gens, non seulement ceux du voyage, ceux qui se séparaient, mais ceux qui étaient venus regarder aussi, et ceux qui étaient là sans raison précise, qui n'avaient personne à qui penser. Le bateau ensuite, très lentement, avec ses propres forces, s'engageait dans la rivière. Longtemps, on voyait sa forme haute avancer vers la mer. Beaucoup de gens restaient là à le regarder, à faire des signes de plus en plus ralentis, de plus en plus découragés, avec leurs écharpes, leurs mouchoirs. Et puis, à la fin, la terre emportait la forme du bateau dans sa courbure. Par temps clair, on le voyait lentement sombrer. Elle aussi, c'était lorsque le bateau avait lancé son premier adieu, quand on avait relevé la passerelle et que les remorqueurs avaient commencé à le tirer, à l'éloigner de la terre, qu'elle avait pleuré. Elle l'avait fait sans montrer ses larmes, parce qu'il était chinois et qu'on ne devait pas pleurer ce genre d'amant. Sans montrer à sa mère et à son petit frère qu'elle avait de la peine, sans montrer rien, comme c'était l'habitude entre eux. Sa grande automobile était là, longue et noire, avec, à l'avant, le chauffeur en blanc. Elle était un peu à l'écart du parc à voiture des messageries maritimes, isolée. Elle l'avait reconnu à ces signes-là. C'était lui à l'arrière, cette forme à peine visible, qui ne faisait aucun mouvement, terrassée. Elle était accoudée au bastingage comme la première fois sur le bac. Elle savait qu'il la regardait. Elle le regardait, elle aussi. Elle ne le voyait plus, mais elle regardait encore vers la forme de l'automobile noire. Et puis à la fin, elle ne l'avait plus vu. Le port s'était effacé, et puis la terre. Il y avait la mer de Chine, la mer Rouge, l'océan Indien, le canal de Suez. Le matin, on se réveillait et c'était fait. On le savait à l'absence de trépidation. On avançait dans les sables. Mais avant tout, il y avait cet océan. C'était le plus loin, le plus vaste. Il touchait le pôle sud, le plus long entre les escales entre Ceylan et la Somalie. Certaines fois, il était si calme et le temps si pur, si doux, qu'il s'agissait, quand on le traversait, comme d'un autre voyage que celui à travers la mer. Alors tout le bateau s'ouvrait, les salons, les coursives, les hublots. Les passagers fuyaient leurs cabines torrides et dormaient à même le pont. Au cours d'un voyage, pendant la traversée de cet océan, tard dans la nuit, quelqu'un était mort. Elle ne sait plus très bien si c'était au cours de ce voyage-là ou d'un autre voyage que c'était arrivé. Il y avait des gens qui jouaient aux cartes dans le bar des premières. Parmi ces joueurs, il y avait un jeune homme. Et à un moment donné, ce jeune homme, sans un mot, avait posé ses cartes, était sorti du bar, avait traversé le pont en courant et s'était jeté dans la mer. Le temps d'arrêter le bateau qui était en pleine vitesse et le corps s'était perdu. Non, à l'écrire, elle ne voit pas le bateau mais un autre lieu, celui où elle a entendu raconter l'histoire. C'était Sadek. C'était le fils de l'administrateur de Sadek. Elle le savait. Il était aussi au lycée de Saïgon. Elle se souvient, très grand, le visage très doux, brun, les lunettes d'écaille. Rien n'avait été retrouvé dans la cabine, aucune lettre. Là, j'ai resté dans la mémoire, terrifiant, le même, 17 ans. Le bateau était reparti à l'aube. Le plus terrible, c'était ça. Le lever du soleil, la mer vide et la décision d'abandonner les recherches. La séparation. Et une autre fois, c'était encore au cours de ce même voyage, pendant la traversée de ce même océan, la nuit de même était déjà commencée, il s'est produit dans le grand salon du pont principal l'éclatement d'une valse de Chopin qu'elle connaissait de façon intime et secrète parce qu'elle avait essayé de l'apprendre pendant des mois et qu'elle n'était jamais arrivée à la jouer correctement. Jamais, ce qui avait fait qu'ensuite, sa mère avait consenti à lui faire abandonner le piano. Cette nuit-là, perdue entre les nuits et les nuits, de cela elle était sûre. La jeune fille l'avait justement passée sur ce bateau et elle avait été là quand cette chose s'était produite, cet éclatement de la musique de Chopin sous le ciel illuminé de brillance. Il n'y avait pas un souffle de vent et la musique s'était répandue partout dans le paquebot noir comme une injonction du ciel dont on ne savait pas à quoi elle avait trait, comme un ordre de Dieu dont on ignorait la teneur. Et la jeune fille s'était dressée comme pour aller à son tour se tuer, se jeter à son tour dans la mer. Et après, elle avait pleuré parce qu'elle avait pensé à cet homme de Cholène. Elle n'avait pas été sûre tout à coup de ne pas l'avoir aimé, d'un amour qu'elle n'avait pas vu parce qu'il s'était perdu dans l'histoire, comme l'eau dans le sable, et qu'elle le retrouvait seulement maintenant, à cet instant de la musique jetée à travers la mer. Comme plus tard l'éternité du petit frère, à travers la mort. Thank you.
au chapitre, Evelyne Jobin.
Autour d'elle, les gens dormaient, recouverts par la musique, mais pas réveillés par elle, tranquilles. La jeune fille pensait qu'elle venait de voir la nuit la plus calme qui serait jamais survenue dans l'océan Indien. Elle croit que c'est pendant cette nuit-là aussi qu'elle a vu arriver sur le pont son jeune frère avec une femme. Il s'était accoudé au bastingage, elle l'avait enlacé et ils s'étaient embrassés. La jeune fille s'était cachée pour mieux voir. Elle avait reconnu la femme. Déjà avec le petit frère, ils ne se quittaient plus. C'était une femme mariée. Il s'agissait d'un couple mort. Le mari paraissait ne s'apercevoir de rien. Pendant les derniers jours du voyage, le petit frère et cette femme restaient toute la journée dans la cabine. Ils ne sortaient que le soir. Pendant ces mêmes journées, le petit frère regardait sa mère et sa sœur sans les reconnaître, aurait-on dit. La mère était devenue farouche, silencieuse, jalouse. Elle, la petite, elle pleurait. Elle était heureuse, croyait-elle. Et dans le même temps, elle avait peur de ce qui arriverait plus tard au petit frère. Elle avait cru qu'il les laisserait, qu'il partirait avec cette femme. Mais non, il les avait rejointes à l'arrivée en France. Elle ne sait pas combien de temps après ce départ de la jeune fille blanche, il a exécuté l'ordre du père. Quand il a fait ce mariage qu'il lui ordonnait de faire avec la jeune fille désignée par les familles depuis 10 ans, couverte d'or elle aussi, des diamants, du jade. Une chinoise, elle aussi originaire du nord, de la ville de Fuchuan, venue accompagnée de famille. Il a dû être longtemps à ne pouvoir être avec elle, à ne pas arriver à lui donner l'héritier des fortunes. Le souvenir de la petite blanche devait être là, couchée, le corps là, en travers du lit. Elle a dû rester longtemps la souveraine de son désir, la référence personnelle à l'émotion, à l'immensité de la tendresse, à la sombre et terrible profondeur charnelle. Puis le jour est arrivé où ça a dû être possible, celui justement où le désir de la petite blanche devait être tel, intenable à un tel point, qu'il aurait pu en retrouver son image entière comme dans une grande et forte fièvre et pénétrer l'autre femme de ce désir d'elle, l'enfant blanche. Il avait dû s'être retrouvé par le mensonge au-dedans de cette femme, et par le mensonge faire ce que les familles, le ciel, les ancêtres du Nord attendaient de lui, à savoir l'héritier du nom. Peut-être connaissait-elle l'existence de la jeune fille blanche. Elle avait des servantes natives de Sadek qui connaissaient l'histoire et qui avaient dû parler. Elle ne devait pas ignorer sa peine. Elles auraient dû être du même âge toutes les deux, 16 ans. Cette nuit-là, avait-elle vu pleurer son époux et, ce voyant, l'avait-elle consolée ? Une petite fille de 16 ans, une fiancée chinoise des années 30, pouvait-elle sans inconvenance consoler ce genre de peine adultère dont elle faisait les frais ? Qui sait ? Peut-être qu'elle se trompait. Peut-être avait-elle pleuré avec lui, sans un mot, le reste de la nuit. Et puis l'amour venir ensuite, après les pleurs. Elle, la jeune fille blanche, elle n'avait jamais rien su de ces événements-là. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. « C'est moi ?» Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit « Je voulais simplement entendre votre voix. » Elle avait dit « C'est moi, bonjour. » Il était intimidé, il avait peur, comme avant. Sa voix tremblait tout à coup, et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il l'avait su par la mère, qu'il avait revue à Saïgon, et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. Naufle-le-Château, Paris, février-mai 1984. C'était L'amant de Marguerite Duras, édité aux éditions de Minuit. Lors des deux pauses musicales, nous avons écouté deux morceaux de Chopin. Le premier, le Nocturne numéro 20 en Do mineur, interprété par Claudio Arao. Le second, la valse en Do dièse mineur, opus 64, numéro 2, interprété par David Cadouche. Cette émission était produite par Frédéric Guyon. Je vous propose de nous retrouver demain pour d'autres lectures et je vous souhaite une bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.